Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Salut tout le monde, vous êtes bien sur 87.7 Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, on parle littérature. Nicolas Poussard, qui avait sorti son premier roman Tim Puckett, Les Mystères de Dreamfield en 2020, a publié le 4 octobre dernier le tome 2, Tim Puckett, Les Mystères de Mr. Nuts. À la lecture de ces livres, vous vous plongerez dans un univers fantastique et plus particulièrement à la poursuite de l'excentrique Mr. Nuts qui réserve de sombres projets. Pour nous en parler plus en détail, j'accueille aujourd'hui l'auteur de ces deux tomes, Nicolas Poussard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un jeune professeur de français dans un collège à Nouvion. Vous avez même mis en place un atelier d'écriture, mais on y reviendra tout à l'heure. C'est pas un peu compliqué d'allier votre vie professionnelle à l'écriture ?
C'est une gestion du temps, oui, effectivement. Je jongle mes journées entre la préparation des cours, les cours en présentiel avec les élèves, et le week-end et pendant les vacances, j'écris ma saga. Et en ce moment, je suis en plein dans la promotion, justement. Donc, il faut savoir gérer son temps. C'est un défi au quotidien, mais pour l'instant, j'y arrive, donc ça, je suis content.
J'imagine. Et dans ce collège, vous avez organisé un atelier d'écriture et vous participerez même à un concours. Donc, le concours, si on lisait à voix haute, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce dont il s'agit ?
J'essaie vraiment de sensibiliser les jeunes au plaisir de l'écriture. Donc, avec ma collègue documentaliste, l'an dernier, on avait déjà organisé des rencontres pour parler de ma saga, de mon livre. Et beaucoup d'élèves m'avaient posé des questions sur comment on peut trouver des idées, comment on écrit, est-ce qu'il y a un planning d'écriture, est-ce qu'on peut même jouer avec certains mots, tout ça. Donc, cette année, on a eu l'idée de créer vraiment un vrai club, donc sur le temps du midi, pour les élèves volontaires. Donc, c'est beaucoup des 6e, 5e, et même un peu aussi une 4e et des 3e. Et donc, on leur propose des jeux ludiques, donc souvent collaboratifs. Donc, ils inventent une partie d'une histoire, ils piochent au sort un personnage, un nom de lieu, et je leur apprends. On les sensibilise à comment on peut mettre en place une intrigue, comment on peut aussi jouer avec les mots, avec les syllabes. Donc ils aiment bien ça. Et puis avec ma classe de 4e, on organise donc tout un projet autour de la lecture, et notamment la lecture à voix haute dans le cadre du concours Si on lise à voix haute, organisé par la Grande Librairie, donc sur France 5. Et là encore, c'est pour les sensibiliser au plaisir de lire. Donc à chaque vacances, ils lisent un livre pour le plaisir. Et là, on leur apprend tous des ficelles pour être aussi à l'aise à l'oral pour l'an prochain, pour la 3e et pour les années à venir. Donc c'est une pierre de coup à la fois de l'amusement et puis de la méthodologie pour être à l'aise ensemble.
Et vous avez eu de bons retours par vos élèves ? Par rapport à vos livres ?
Oui, alors justement, ça m'a fait très plaisir parce que comme l'an dernier, il y a eu des annulations à cause de la Covid, donc il n'y a pas eu de rencontres en librairie. Et j'ai pu justement rencontrer, grâce à ma super collègue documentaliste du collège donc de Nouvion, organiser des rencontres avec mes élèves et puis d'autres élèves d'établissement. Ils m'ont posé des questions sur le livre. Mes élèves m'ont dit « Ah, vous avez écrit un livre ». Ils sont allés sur les réseaux sociaux, ils ont trouvé Nicolas Poussard, auteur. Et ils se sont tout de suite enthousiasmés pour le projet. Donc, on a échangé ensemble. Et heureusement, ça m'a permis d'avoir un peu de lien l'an dernier. Parce que sans voir personne, sans voir de lecteur, l'auteur n'est rien. Donc, c'est important, c'est les échanges.
Et est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce premier tome et faire un petit teaser du deuxième ?
Bien sûr. Alors, donc, le tome 1. Emmène les lecteurs donc sur l'île de Dreamfield, sur laquelle il y a le plus grand parc d'attractions du monde, situé donc en baie de Somme, donc c'est chez nous, hein, donc on a de la chance. Et le propriétaire des lieux, donc Mr. Nuts, qui est un peu excentrique, un peu fou, et en même temps un peu aussi mystérieux et assez sombre quand même, il réserve donc des surprises aux visiteurs qui viennent dans son parc, aussi bien les enfants que les parents. Et en plus de ça, il a créé un établissement juste à côté qui s'appelle le Clinic Hotel, dans lequel il accueille aussi bien des orphelins que des personnes âgées et aussi des adolescents. Donc plein de tranches de vie qui cohabitent. Et notamment, ça s'appelle l'EDN, donc c'est une clinique spécialisée pour guérir a priori les défauts des plus grands spécimens adolescents. Donc il y en a une qui est très maniaque, il y en a un qui est colérique, il y en a un qui se comporte comme un gamin de 10 ans alors qu'il en a 16. Et donc tous ces enfants, eh bien, ils se font guérir dans cet établissement. Et tous ces projets, donc aussi bien le parc que le Clinic Hotel, eh bien Mr. Nuts, il le fait grâce à une substance qui serait présente donc autour de nous et même à l'intérieur de nous. C'est pas de la magie, c'est bien plus que ça, parce que ça, c'est vraiment une substance qui permettrait donc de répondre à tous les mystères que l'on se pose, donc aussi bien la création du monde, pourquoi on ressent des émotions comme l'amour, l'amitié, pourquoi on vit, pourquoi on meurt, enfin voilà, plein de questions très passionnantes, et donc c'est résolu dans ce tome 1. Donc voilà, donc c'est pas de la sorcellerie non plus, c'est autre chose. Et donc dans le tome 2, eh bien on va, maintenant qu'on a découvert cette substance un peu étrange, on va découvrir vraiment les projets plus en détail de Mr. Nuss, on va découvrir qui est vraiment le méchant, et puis avoir bien sûr de nouveaux personnages. On va aussi voyager à Amiens, donc dans certains passages. Et ça va aller de plus en plus en profondeur dans des sujets encore plus précis comme la mort. Des créatures vont aussi apparaître, donc il y aura encore plus d'aventures, plus de rebondissements. Donc c'est tout un programme dans le tome 2.
Donc le premier tome se déroulait en baie de Somme, le second se déroule près d'Amiens et même dans la tour Perret. Pourquoi avoir choisi la Picardie et plus particulièrement la Somme pour planter vos décors ?
Je voulais un peu rendre hommage à la terre qui m'a vu naître, donc je suis né à Amiens, et puis je vis aussi maintenant aussi sur Abbeville. Je voulais vraiment ancrer le parc, donc c'était une île que je voulais créer près de chez nous, parce que souvent ça se passe en Angleterre, aux États-Unis,
alors oui,
on peut aussi créer une saga fantastique près de chez nous, donc en baie de Somme. Et puis je voulais aussi donc rendre hommage à la ville qui m'a vu grandir, donc c'est pour ça que j'ai créé une partie de l'intrigue du tome 2 dans le quartier Saint-Leu. Donc on va aller d'ailleurs sur et sous la Somme à un moment donné, on va aussi évoquer la cathédrale à un moment donné également de l'intrigue, et il y aura aussi quelques scènes au sommet de la tour Perret, donc avec des endroits que vous ne connaissez pas, que personne connaît, mais que je vais vous dévoiler. Et dans le tome 3, peut-être qu'il y aura d'autres lieux, comme peut-être le cirque Jules Verne ou encore d'autres lieux emblématiques de la ville.
Bah, ça fait plaisir d'avoir enfin notre ville vraiment représentée dans un roman. Et justement, comment vous est venue l'idée d'écrire un livre ? Est-ce que c'est un rêve d'enfant, ou est-ce que ça vous est venu pendant vos études ?
Alors le projet est né en 2013, donc lorsque j'étais encore au lycée, donc de la Sainte-Famille à Amiens, et je voulais depuis toujours embarquer les lecteurs dans mon propre univers. Il fallait que je trouve la bonne idée, donc parfois il faut être très patient, et l'idée m'est venue comme ça un jour, alors que j'aime m'endormir, c'est toujours dans les moments qu'on ne s'attend pas de toute façon, et j'ai vu un parc d'attractions avant de m'endormir. Le personnage excentrique m'a apparu, j'ai eu des petits flashs par-ci par-là, et je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien me lancer dans l'écriture. Et à cette époque-là, j'étais membre d'un forum en ligne qui s'appelle BookNode, donc qui est l'un des forums les plus connus avec Babelio et puis LibreAddict. Et on pouvait poster, et on peut encore d'ailleurs, mais c'est un peu moins qu'avant, des extraits d'histoires, et les internautes pouvaient donner leur avis, dire s'ils aimaient, etc. Et c'est au fur et à mesure que j'ai eu des centaines de vues. Et d'ailleurs, à un moment donné, je suis arrivé à 20 000 vues. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah allez, je vais me lancer. Si tout le monde aime l'intrigue de base, allez, je vais me lancer, je vais contacter des maisons d'édition. Et on envoie par mail à plusieurs maisons. Et Rebel a été l'une des premières à m'avoir répondu. J'ai sauté sur l'occasion et il a fallu attendre encore un petit peu avant de publier, évidemment, parce que le planning était chargé. Et à force de m'accrocher, eh bien, c'est sorti donc en 2020.
À la lecture de ces deux tomes, on se plonge dans un univers fantastique qui n'est pas sans rappeler celui de grands auteurs qu'on connaît tous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos inspirations ?
Bien sûr. Donc effectivement, beaucoup de gens qui ont lu le tome 1 m'ont dit « ça ressemble à un petit... » Enfin, ça ressemble. Ça fait penser un peu à l'atmosphère loufoque de Roald Dahl, pour son humour, pour les personnages excentriques, complètement déjantés, de tous âges, d'ailleurs aussi bien les enfants que les personnes âgées. D'autres m'ont dit, c'est vrai que c'est un peu inquiétant parfois, donc c'est à la fois coloré et aussi un peu plus sombre, comme un peu Tim Burton, lorsqu'il mélange un peu ses esthétiques un peu plus délirantes et en même temps inquiétantes. Et puis bien sûr, j'aime beaucoup Charlie la Chocolaterie et Alice au Pays des Merveilles aussi, donc c'est aussi un hommage à tous ces auteurs qui nous font voyager à n'importe quel âge, et ça a traversé toutes les époques, donc j'aimerais bien emmener les lecteurs dans cet univers un peu déjanté, loufoque et complètement divertissant, enfin j'espère.
Et comment vous avez mis en place cette thématique de cette substance qui pourrait tout expliquer ? Comment ça vous est venu vraiment de parler de ça ?
J'aime beaucoup lire des livres donc jeunesse, young adulte, qui parlent de magie, de fantastique, et c'est vrai qu'à chaque fois que je lis, je me dis toujours, ok, les personnages ont des pouvoirs, ou il se passe des choses étranges, on n'explique jamais vraiment d'où vient la magie. Même par exemple Harry Potter, dont je suis vraiment fan, on ne sait jamais d'où vient la sorcellerie, c'est inné en fait, et je voulais vraiment, à ma sauce, emmener dans un univers où j'explique vraiment d'où ça vient, essayer de comprendre pourquoi ça pourrait vraiment exister. Donc j'explique d'ailleurs dans le tome 2 la création du monde en détail, donc comment ça a vraiment été créé. J'explique aussi le mythe de la fête d'Halloween en jouant sur les mots, etc. Dans le tome 3, j'expliquerai aussi la fête de Noël. Donc j'aime bien donner ma propre vision des choses. Quand on n'a pas l'explication, la vraie explication, et bien j'aime bien inventer moi-même et trouver des réponses aux questions que nous n'avons, dont nous n'avons pas la vraie solution.
Et quels conseils vous pourriez donner à ceux qui ont envie de se lancer dans l'écriture d'un livre ?
Bah comme à mes élèves, j'en dis toujours, quand on a des idées, même si on a l'impression que beaucoup de gens en ont déjà parlé, ou au contraire, on a peur parce qu'on se dit, mais personne n'en a parlé, donc est-ce que ça va plaire ? Il faut se lancer dans l'écriture. Il faut se lancer aussi, même quand on a des problèmes d'orthographe, qu'on n'arrive pas à trouver forcément toujours les mots justes, on se lance, on fait un premier jet. Et après, lorsqu'on relit, on retravaille. D'ailleurs, l'écriture, c'est un travail de longue haleine, donc le premier jet n'est jamais parfait. Il faut toujours retravailler. Ne pas baisser les bras et toujours se dire que même si des gens n'aiment pas, bah c'est pas grave, qu'il y aura peut-être des gens qui vont être touchés. Le but, de toute façon, c'est de toucher quelques auteurs, pas forcément pas tous les lecteurs en général. Et à force de s'accrocher, eh bien on va plaire à une personne, deux personnes, trois personnes. Commencez aussi par les forums en ligne qui peuvent aussi donner des conseils aux jeunes auteurs. Ne pas hésiter à faire lire aussi aux personnes qu'on aime, aux personnes autour de nous. Et puis à un moment donné, si on est prêt, si on a envie, eh bien on n'hésite pas, on envoie aux maisons d'édition. De toute façon, même si c'est pas parfait, des maisons diront peut-être oui. Si l'intrigue leur plaît, ils accompagneront les auteurs avec grand plaisir. Et j'espère que certaines maisons d'édition continuent à soutenir les auteurs français, donc, dont Rebelle d'ailleurs, dont c'est ma maison. Et n'hésitez pas.
Voilà. Et c'est si compliqué que ça de trouver une maison d'édition, parce qu'on entend souvent que c'est un travail de longue haleine pour en trouver une. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, alors c'est vrai que c'est un mythe qui s'avère véridique. Par exemple, donc mon expérience personnelle, au début, quand j'ai envoyé à des maisons d'édition, j'ai sélectionné aussi celles qui proposaient d'envoyer en numérique, donc par mail, parce que si on envoie par la poste, ça fait aussi un certain coût aussi. Il faut savoir que beaucoup de grandes maisons, parce qu'on est rêveur au début, et il faut toujours aussi viser le plus haut, faut pas hésiter, ils sélectionnent souvent des auteurs étrangers pour faire des traductions. Donc déjà, ces maisons-là, il faut vraiment être à l'étranger pour percer. Et après, d'autres maisons ouvrent leur sélection, leur comité de lecture. Il ne faut pas hésiter à envoyer à tout le monde. Et bien sûr, il faut attendre parfois des mois, voire des années, à avoir une réponse. Parfois, on relance aussi parce qu'on n'a pas toujours de réponse de ces personnes. Parfois, il y en a aussi qui disent, qui nous laissent une lueur d'espoir et finalement... Eh bien non, parce qu'il y a un changement de comité de lecture. Donc vous voyez, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas, il y a toujours des rebondissements. C'est une affaire aussi de timing, ça dépend des périodes, ça dépend aussi des contacts aussi. Parce que certains vont juste lire le résumé qu'on propose, d'autres vont lire les premières lignes et vont s'arrêter, ou d'autres vont juste parcourir comme ça le manuscrit, certains passages, et puis c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment que le résumé qu'on envoie soit le plus propre et le plus clair et le plus intriguant possible. Pareil pour les premières pages, c'est vraiment les plus importantes.
C'est ça qui va compter, en fait, qui va déterminer. D'accord. Et est-ce que vous avez des séances de dédicaces prévues bientôt ?
Donc, à Amiens, justement, ma dédicace est samedi 20 novembre au Cultura, donc à Chapin Promenade. J'ai déjà fait donc, des dédicaces dans la Somme à Abbeville. Et tous les ans, de toute façon, je retournerai aussi bien à Abbeville, à Studio Livre, qu'à Amiens. Là, cette année, c'est au Cultura. Et j'ai déjà prévu d'autres dédicaces en Picardie. J'ai déjà fait une dédicace donc, à Lille, dans les Hauts-de-France, lors du cadre du Salon des Aliénales, qui est le plus grand salon du fantastique du Nord. Et également à Beauvais, dans l'Oise. Et j'ai aussi d'autres projets pour aller dans l'Aisne ou dans le Pas-de-Calais. Donc je suis vraiment notre local qui va à la rencontre des lecteurs des Hauts-de-France et aussi dans les collèges, parce que j'ai aussi proposé aux collègues de la région, s'ils veulent me faire venir, proposer des activités au 6e, 5e, 4e, 3e aussi, il n'y a aucun problème. Il suffit de me contacter, je suis assez joignable sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas.
Et au départ, vous étiez parti pour écrire une quadrilogie. Est-ce que c'est toujours ce qui est prévu ? Vous allez vraiment écrire 4 tomes ?
Oui, donc ça aussi, il faut savoir, quand on envoie aux maisons d'édition, ils demandent...
Ils demandent toujours combien de tomes.
Voilà, il faut aussi l'assurance qu'on ait déjà écrit tous les tomes, ou du moins qu'on ait la trame, c'est mon cas, donc j'ai déjà la trame des quatre tomes, même si je retravaille bien sûr le tome 3 en ce moment d'ailleurs. Et me suis engagé pour les 4, donc il y aura bien 4 tomes qui sortiront tous les ans au mois d'octobre. Et d'ailleurs, si vous avez déjà regardé ma couverture, les 4 s'aligneront et formeront une belle vue de parc d'attraction. Donc on a pensé à ce qu'il y ait une belle continuité.
Eh bien, je vous remercie, Nicolas. Je vous laisse avec le titre Ha 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 du Chapelier Fou. À